Chapitre 7. C'était la troupe de saltimbanques et de montreurs d'animaux, déjà rencontrés par Jean-Paul à la foire du village voisin, qui commettait dans celui-ci cette effroyable musique. Elle arrivait et s'annonçait dans ce nouveau village comme devant y donner plusieurs représentations, avec la permission des autorités constituées de cette ville et à la demande générale du public, qui ne s'en doutait guère. Par une singulière fatalité, cette troupe d'artistes, comme ils s'intitulaient eux-mêmes, choisit pour son théâtre la Grange du Meunier. Jean-Paul et Petit Jacques y jouirent donc naturellement de leurs grandes entrées. Ce fut un mal pour eux. Cela les mit en grande familiarité avec la troupe entière, hommes et animaux. Une heure à peine s'était écoulée qu'ils étaient les meilleurs amis et des uns et des autres. Jean-Paul connaissait leur histoire à tous, et tous possédaient parfaitement la sienne. Il en était de même en ce qui concernait Petit Jacques. Cette troupe était moins florissante alors qu'elle ne l'avait été à l'époque de la foire. Le meilleur s'en était séparé. Une mésintelligence déplorable qui s'était élevée à propos d'une croûte de pain entre le dromadaire du chef actuel et le chameau de son associé, avait occasionné une violente querelle entre les deux maîtres et, par suite, une scission générale de la bande. Le paillasse avait suivi l'un et le jocrisse l'autre. Le sauvage s'était rallié à la fortune de celui-ci et la femme sans tête au destin de celui-là. Bref, par suite de cette séparation, la troupe actuelle ne se composait plus, entre autres curiosités, que du chef qui se nommait lui-même par une triste ironie le marquis de la Galoche, de sa femme, la belle Lamèche, aux yeux louches, à la voix rauque, aux cheveux roux, qui se proclamait la reine des îles Salmigondis, de leurs enfants, au nombre de 7 garçons et filles, qui dansaient sur la corde et dont l'aîné se disait Hercule du Nord et le cadet Laponien, d'un grimacier nommé Panouille, qui faisait le jocrisse à la porte et l'anthropophage dans la baraque, d'un mouton, d'un coq d'Inde, d'un serpent empaillé, de 2 paires d'ours, de 2 ou 3 lapins savants, d'un chat, d'un singe, etc., lesquels animaux, ornés, équipés, bariolés de 1000 couleurs, étaient présentés à l'admiration villageoise comme des bêtes rares et curieuses. La troupe ainsi réduite n'obtint qu'un médiocre succès à son début dans le village. Le marquis de la Galoche sentit donc le besoin de la compléter par l'adjonction de quelques phénomènes vraiment curieux. Il jeta les yeux sur Jean-Paul, dont les aventures lui étaient connues et dont l'aptitude à faire des grimaces lui parut une mine fort riche à exploiter. Il l'invita, après le spectacle, à souper en famille, c'est-à-dire avec sa femme, ses enfants, ses chiens, son chat, son mouton, ses lapins, etc. Après quoi il lui dit « Mon jeune ami, je déplore profondément l'état d'abjection dans lequel vous êtes dégringolé. Garçon meunier, cela peut être fort honorable, je ne dis pas le contraire, mais vous êtes appelé à beaucoup mieux. Lorsqu'on possède une physionomie comme la vôtre, qu'on a les plus heureuses dispositions naturelles, qu'on jouit d'une voix glapissante, qu'on peut en faire tout ce qu'on veut, ainsi que de sa figure et, en général, tout son individu, certainement on peut prétendre à tout, civilement et politiquement parlant. Plantez-moi là vos ânes, vos sacs, votre soupe aux choux et votre père François, qui me fait l'effet d'être un hypocrite, et venez avec nous, mon jeune ami. » Vous serez nourri à bouche que veux-tu, vous serez vêtu magnifiquement, rien qu'en satin de coton, comme vous pouvez nous voir, avec de l'or sur toutes les coutures. J'ose vous prédire un véritable succès dans les paillasses et dans les monstres vivants. Venez donc, c'est un coup de fortune pour vous. Voici l'instant, voilà le moment. Et puis, sans nous vanter, l'état de saltimbanque est une position sociale. Je n'ai pas besoin de dire avec quel empressement Jean-Paul accepta la proposition. Il fit plus. Ne voulant se séparer de Petit Jacques, il stipula pour celui-ci des conditions pareilles. Le marquis de la Galoche jugea qu'avec un peu d'art, on pouvait tirer parti de ce dernier, notamment dans les jocrisses et dans les Iroquois. Petit Jacques fut donc admis par-dessus le marché. Dès le lendemain, à la pointe du jour, sans prendre congé du père François, nos deux aventuriers abdiquèrent l'étrille et le sac de farine, dirent un éternel adieu à la soupe aux choux, et s'emballèrent avec leurs camarades pour le prochain village. Jean-Paul profita naturellement de l'occasion pour se lier plus intimement avec le singe dont il avait fait la connaissance à la foire voisine sous de si égratignants auspices. Qu'advint-il de fâcheux pour nos héros de cette nouvelle équipée, la plus grave qu'ils eussent commise jusque-là? C'est ce que je vais avoir l'honneur de vous dire grâce aux laborieuses investigations auxquelles je me suis livré. Nous avons laissé nos apprentis saltimbanques roulant sur la grande route dans une immense voiture de sapin, non suspendue, presque carrée et percée de petites fenêtres, espèce de grande maison à quatre roues, traînée par deux maigres chevaux, et dans laquelle, hommes et bêtes, tout était entassé sans distinction de rang. La distribution intérieure de cette nouvelle arche de Noé était vraiment trop bizarre pour que je me dispense de vous en faire la description. La plupart des baraques de ce genre sont construites sur ce même patron. Ce sont de grandes caisses qui se démontent en 100 morceaux quand on veut en extraire les cages d'animaux et donner, en certains endroits, ce que les saltimbanques appellent des représentations en ville. Lorsqu'au contraire la localité est trop peu digne de cet honneur, la voiture s'arrête sur la place et sert elle-même de salle de spectacle au moyen d'une courte échelle que le public gravit pour s'y introduire. Enfin, quand la troupe voyage, elle est quasi ainsi. Sur l'arrière de la voiture, on exile dans leur cage les loups, les renards, les ours, tous les animaux dangereux. Viennent ensuite les caisses renfermant les bons endormis et les bêtes empaillées, puis les poulets bariolés, les poules peintes à l'huile, les canards savants, les lièvres aguerris, les lapins qui font le mort, etc. Puis un grand coffre contenant les provisions, du pain, du gruyère, de l'eau-de-vie et du cervelas pour les hommes, du grain et de la pâtée pour les volailles, et quelques livres de mauvaise viande pour les quadrupèdes, le tout pêle-mêle. Enfin, à l'avant, sur de sales matelas, ou même sur de la paille immonde, sont amalgamés les chiens, les chats, les singes, les hommes bâillant, buvant, criant, sifflant, gambadant, hurlant, chantant, fumant. C'est un triste tableau. De tout cela résulte une atmosphère méphitique au milieu de laquelle vous, mes amis, ne vivriez pas 5 minutes. Jean-Paul et Petit Jacques en furent suffoqués d'abord. Mais avant de nous occuper d'eux, je crois utile de publier une courte notice biographique sur le marquis de la Galoche, sur son épouse et leur auguste famille. Le marquis de la Galoche, que nous continuerons d'appeler de ce nom, était un homme de 28 à 30 ans. On lui en eût donné 40, tant sa figure était pâle, son œil creux, son front ridé, sa voix chevrotante et sa taille voûtée. Son costume habituel était peu fait pour déguiser ce qu'il y avait de misérable et de déjà caduque dans sa personne. Ce costume se composait d'une paire de bottes à revers jaune, dont les semelles étaient recousues au moyen de ficelles, d'une paire de bas chinés, d'un large pantalon de basin blanc, bouffon vers la ceinture et retroussé jusqu'aux genoux, lequel lui servait ainsi, selon la circonstance, de pantalon ou de culotte, et enfin d'une espèce de gilet rougeâtre, parsemé de paillettes de cuivre, à moitié rongé de vert-de-gris. Sa coiffure consistait en une perruque blanche, à longue queue, et en une toque de velours noir, tachée de graisse et de poussière, et surtout surmontée de longues plumes de coq d'Inde et de paon, dégarnies, ternes et la plupart brisées. Ajoutez à cela que, aux heures où il ne fumait pas, le marquis de la Galoche s'emplissait incessamment la bouche de grosses pincées de tabac qu'il roulait entre ses dents, qui lui bosselaient alternativement l'une et l'autre de ses joues et lui faisaient des lèvres toutes noires. C'est ce qu'on appelle chiquer. Ce sont là d'assez mauvaises habitudes quand elles ne sont point nécessaires et surtout la dernière qui ne peut s'excuser que chez les marins. Vous ne sauriez donc éviter trop soigneusement tout ce qui peut y ressembler, comme, par exemple, de fumer en guise d'amusement, de minces rouleaux de papier bourrés parfois de feuilles de thé, de tilleul ou d'anis, ou bien encore de petites branches de vigne sauvage, ainsi que font certains enfants. C'est par des simulacres de cette nature que beaucoup de garçons que vous voyez maintenant fumer de vrais cigares ou de grosses et puantes pipes, au grand déplaisir de tous, ont commencé jadis leur détestable apprentissage. Vous pouvez m'en croire d'autant plus volontiers que, moi qui vous parle, je prise et fume abominablement. La chique seule m'est encore, grâce à Dieu, étrangère, ce qui fait que je professe pour elle la plus profonde horreur. Mais revenons au marquis de la Galoche. J'ai dit qu'en apparence il était plus vieux que son âge. Or, mes amis, si rien n'est aussi vénérable, aussi majestueux, aussi saint ici-bas que la vieillesse véritable, la pâleur qu'a faite une misère honnête, les rides qu'a creusées la souffrance imméritée, les cheveux qu'a blanchi le chagrin, rien au contraire n'est plus hideux à voir que ces vieillesses prématurées, ces têtes qu'a dépouillé le vice, ces traits qu'ont fané les excès. La physionomie du marquis de la Galoche offrait malheureusement les livides caractères de cette triste précocité. Sa figure était un mauvais livre sur les pages duquel on pouvait lire, en lettres ineffaçables, comme sur la blanche muraille de Balthazar, la condamnation de sa coupable vie.